Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi politique. C'est le député maire Les Républicains du Havre, Édouard Philippe, l'un des principaux lieutenants d'Alain Juppé, qui nous accompagne ce soir sur RFI. Bonsoir.
Bonsoir.
Pour vous interroger à mes côtés, Roselyne Fèvre de France 24 et Alain Auffray de Libération. Alors, nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission sur l'année de tous les dangers qui vient de s'ouvrir à droite avec la campagne des primaires qui s'accélère à 10 mois maintenant du scrutin. La compétition s'annonce rude, nous y reviendrons. Mais pour commencer, bien sûr, place à l'actualité. Avec cette semaine, le plan d'urgence pour l'emploi annoncé hier par le président Hollande. 2 milliards d'euros sont sur la table, dont 1 milliard pour doubler le nombre des chômeurs en formation. Un enjeu sans doute crucial pour la France, mais également pour le chef de l'État qui a conditionné sa candidature à la présidentielle au recul du chômage. François Hollande, qui se dit tout à la fois déterminé à réformer jusqu'au bout.
Face à l'urgence économique et sociale, chacun est mis devant ses responsabilités. Je le suis parce que je me suis engagé. Mais ce qui compte, c'est d'aller regarder ce qui peut être créé dans notre pays au-delà même de quelque échéance électorale que ce soit. Ce qui compte, c'est de faire les réformes jusqu'au bout. Ce qui compte, c'est de faire les réformes qui sont attendues. Et sur cette ligne, j'irai jusqu'au bout.
Voilà, président Hollande, déterminé à réformer jusqu'au bout pour inverser la courbe du chômage. Est-ce que ce plan de la dernière chance, pour lui et pour la France, sans doute, vous a convaincu, Édouard Philippe ?
Si le sujet n'était pas aussi grave, on pourrait faire beaucoup de mauvais esprits. On fait remarquer que c'est plutôt un plan d'urgence pour l'emploi de François Hollande qu'un plan d'urgence pour l'emploi. Remarquer que c'est trop peu et trop tard. Pointer toutes les extravagances de ce discours où, 3 ans après avoir pris les rênes, 3 ans et demi après avoir pris les rênes de l'État, François Hollande découvre qu'il faudrait placer la question du chômage au centre des préoccupations, déclarer l'urgence. On pourrait faire tous mauvais esprit et ce ne serait même pas vraiment du mauvais esprit. Sauf que la question qui est au centre de son discours, c'est celle d'une situation et d'une caractéristique française qui est absolument dramatique. Et finalement, même si on a appris à vivre avec, et je le dis sans m'en réjouir, même si on est malheureusement habitué à vivre en France avec un taux de chômage élevé...
Plus de 10%.
Plus de 10% aujourd'hui, mais vous voyez bien que le point le plus bas dans les 25 dernières années, ça a dû être à 7 points. Donc on a toujours, depuis longtemps maintenant, un taux de chômage élevé. Mais c'est une caractéristique française, et c'est une caractéristique extrêmement... extrêmement problématique. Quelques éléments. On a en France une situation économique qui est mauvaise, un chômage qui est élevé, alors qu'un certain nombre de déterminants de l'économie sont plutôt bons. Un pétrole historiquement bas, des taux d'intérêt historiquement bas, et des pays frontaliers ou les pays importants avec lesquels la France commerce, qui sont dans des situations économiques pas mauvaises et qui donc pourraient tirer la croissance française. Et dans ce contexte presque inespéré, on réussit, pardon de dire ce terme, on a encore plus de 10% de chômeurs. Ça veut dire que la situation est en réalité extrêmement mauvaise. Et que propose François Hollande ?
Le chef de l'État est extrêmement mauvais. Qu'est-ce qu'il cherche au travers de ce plan d'urgence ? Allez jusqu'au bout de votre pensée, après on reviendra sur ce que vous préconisez.
Ce plan d'urgence, il est constitué de beaucoup de dépenses et de peu de réformes. Il est constitué, alors ça pour dépenser on dépense, mais il n'y a pas beaucoup de réformes de structure, ni du marché du travail, ni une destruction des freins à l'embauche. Il est fondé sur des hypothèses qui sont, d'après ce que disent tous ceux qui connaissent dans le détail la capacité de formation du dispositif français, fondé sur des hypothèses totalement extravagantes.
Ça arrive 500 000 souvent, ça, pour formations. Pour les gouvernements français.
Non, mais
français,
qu'on survalorise les hypothèses de croissance économique, je veux bien, mais qu'on dise qu'on va mettre 500 000 chômeurs en formation, alors qu'en général, je crois que les formations, ça doit être de l'ordre de 100 à 120 000 entrées en formation à chaque mois de septembre. C'est simplement ne pas prendre le taureau par les cornes et habiller une situation désastreuse de façon à pouvoir présenter quelque chose qui sera justement plus présentable au moment où le président de la République annoncera ou laissera entendre qu'il repartira à l'élection présidentielle. On est dans une sorte d'habillage qui n'est même pas élégant, qui n'est même pas crédible, qui n'a d'ailleurs convaincu absolument personne, et qui n'est mais tellement pas à la hauteur de l'enjeu que c'en est presque un peu pathétique, à vrai dire.
Roselyne Fèvre, dans le fond, si on prend les choses dans l'ordre, la prime à l'embauche de 2000 euros...
C'est n'importe quoi, la prime à l'embauche de 2000 euros. Je ne connais pas... Je vais vous dire...
Ça fait baisser le prix du travail.
Mais pas du tout.
Coup de pouce qui n'est pas négligeable.
Mais pas du tout. Pardon de le dire comme ça. Je comprends très bien, et je ne dirai jamais que 2000 euros, ça n'est rien. Mais je ne connais pas, je vais vous dire franchement, je ne connais pas de chef d'entreprise qui recruterait un CDI en se disant « Oh, bah, il y a 2000 euros à l'embauche pour un CDI. Oh, bah, je vais le faire. » Pardon, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous recrutez quelqu'un quand vous êtes chef d'entreprise parce que vous considérez que sur le moyen terme, je ne vous parle même pas du long terme, mais sur le moyen terme, c'est-à-dire pas les deux premiers mois, sinon vous ne prenez pas un CDI, sur le moyen terme, à 2, à 3, compte tenu de la durée qu'il faut pour former quelqu'un, à 2, à 3, à 5 ans, vous avez la possibilité de créer un business rentable. Ce n'est pas une prime à l'embauche de 2000 euros sur un CDI qui déclenchera
la moindre... Donc ces mesures-là, comme les 500 000 chômeurs, vous ne les gardez pas en 2017 si vous êtes élu?
Elles auront un effet. Elles créeront un effet d'aubaine pour ceux qui, de toute façon, vont les recruter. Donc je ne crois pas une seconde au rôle véritablement déclencheur de l'embauche de cette mesure. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que ce soit efficace. En revanche, je pense que c'est cher.
Mais comment vous expliquez que les chefs d'entreprise, en tout cas le MEDEF, qui est censé les représenter, trouvent des qualités à ce plan et le disent d'ailleurs haut et fort. Ils méditent pas pour la réélection de François Hollande, a priori.
Non, comme bien même le ferait-il, ils auraient le droit de le faire. Enfin, je crois pas que ce soit le cas. Je ne me l'explique pas. Ce que je sais, c'est que quand j'en parle autour de moi à des chefs d'entreprise au Havre, je ne vois pas en quoi cette mesure, c'est vous qui l'avez citée, alors je la reprends, des 2000 euros pour l'emploi d'un CDI, pour l'embauche d'un CDI, en quelque mesure que ce soit de nature à déclencher une embauche.
Le CICE en baisse de charge, pardon, vous gardez pas non plus?
Mais c'est autre chose. C'est extrêmement intéressant. Il y a un tabou à gauche qui a longtemps existé, qui existe encore un peu, peut-être un peu moins. De ce point de vue-là, la gauche a probablement, même si c'était lentement, évolué, qui consiste à baisser directement et de façon assumée les charges. Et donc pour éviter de baisser directement et de façon assumée les charges, pour éviter de faire par exemple la TVA sociale, que la droite avait décidée, et que la gauche a démontée, on a créé le CICE. C'est pas en soi un mauvais instrument le CICE, puisqu'il s'agit de desserrer le coût du travail pour une certaine catégorie de travail en redonnant la capacité aux entreprises de reconstituer leurs marges. Et d'ailleurs, ça a eu cet effet-là.
D'ailleurs, c'est ce qu'elles ont fait.
Elles ont
reconstitué leurs marges. Absolument. Elles n'ont pas embauché pour autant.
Beaucoup embauché, parce qu'encore une fois, les décisions de l'embauche, elles ne se fondent pas sur ce type d'indicateur, mais elles ont reconstitué leurs marges, et donc elles ont des capacités d'investissement qu'elles n'avaient plus. C'est pour ça que je dis, c'est pas forcément mauvais le CICE. Mais au lieu de procéder à une diminution simple, sans équivoque, des charges, on a créé une usine à gaz, l'usine à gaz du CICE. On aurait pu faire beaucoup plus simple. Mais ça aurait exigé que François Hollande tranche dans le vif et explique à la gauche qu'on allait faire une baisse des charges pour tout le monde. Et ça c'est un tabou de la gauche. Alors, très bien si on finit par transformer le CICE en baisse de charges, parce que je pense que c'est indispensable. On devra le compenser par une augmentation de la fiscalité. Et vous verrez qu'après 3 années de tergiversation assez misérable, la gauche reviendra à quelque chose qui ressemble à la TVA sociale.
Juppé, président en 2017, c'est quoi les grandes lignes pour créer des emplois durables au-delà de la baisse des charges?
Alors je suis certain que vous aimeriez que je vous réponde et je ne vais pas le faire, pas du tout, parce que je n'ai aucune idée.
Vous pouvez faire des pistes, des pistes, je ne sais pas moi, la refonte du code du travail, ce genre de choses.
Oui, on a évidemment tout ça en tête, mais il ne vous a pas échappé que Alain Juppé s'était fixé une méthode pour travailler, pour préparer la primaire. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard.
On va dire un peu le suspense.
Et que l'ensemble de ses propositions en matière d'emploi, en matière d'économie, de développement économique, et notamment en matière de travail, il les fera au printemps, après avoir conduit une réflexion, des rencontres, après avoir réfléchi sur un certain nombre de sujets. C'est à ce moment-là qu'il les formulera et je ne peux donc pas vous répondre aujourd'hui en janvier à cette question.
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Véronique pour essayer d'en savoir plus. Il y a des chiffres très intéressants à regarder qui sont d'Eurostat. Depuis 2 ans, la France a créé 57 000 emplois privés. L'Allemagne, 10 fois plus. L'Espagne, 10 fois plus. L'Italie, 10 fois plus et pourtant elle était en récession. En revanche, 233 000 emplois publics ont été créés en France. Donc on voit bien qu'il y a un petit problème chez nous. Les entreprises ne veulent pas créer d'emplois. Comment ? Quelle est, d'après vous, la bonne formule ? Quelle est, si vous voulez pas donner la philosophie de la chose.
Les chiffres
sont intéressants quand même. Ils sont dramatiques.
Non seulement ils sont passionnants, mais ils sont dramatiques. Ils sont passionnants parce qu'ils montrent que dans des économies en croissance comme l'Allemagne, ou même en difficulté comme l'Italie et l'Espagne, on est capable, alors en Espagne il y a un taux de chômage qui est tout à fait, sans comparaison encore avec celui de la France, bien plus élevé. Mais enfin, dans des économies, on est capable de créer de l'emploi privé. Et pas forcément de l'emploi précaire, mais de l'emploi privé. Mmh. En France, en vérité, les seuls emplois qu'on a créés dans ces 3 ou 4 dernières années, il y a quelques emplois privés créés, heureusement, hein, mais c'est essentiellement des emplois publics ou des emplois aidés. C'est-à-dire des emplois qui ne sont pas durables s'agissant des emplois aidés, ça c'est certain, et qui, s'agissant des emplois publics, viennent d'une façon ou d'une autre alourdir une fiscalité et un coût et une dépense publique qui est déjà trop élevée. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de libération de la capacité.
Mais comment vous faites le Big Bang, vous ?
Eh ben, je pense que le Big Bang, il passe d'abord par une simplification du droit du travail. On a créé en France, on pense en France trop souvent, et je suis confus de le dire, mais on pense en France trop souvent que pour éviter le chômage, il faut éviter le licenciement. Voilà. C'est-à-dire qu'on pense que le travail est une donnée qu'il faut répartir. C'est d'ailleurs toute la théorie des 35 heures. Baissons le temps du travail, on aura un gâteau, le travail, qu'on va répartir entre plus de gens, et donc, évidemment, il y aura moins de chômage. Moi, je pense l'inverse. Je pense que c'est l'activité qui crée le travail, je pense que c'est un processus de création, et que pour ça, il faut faire en sorte que le marché soit plus fluide, qu'on puisse plus facilement se séparer, quand c'est difficile, des gens qu'on a recrutés pour pouvoir plus facilement les embaucher,
donc, plus
quand
flexible,
ça va bien.
En fait, hein.
Plus souple, plus flexible, absolument. J'en suis absolument convaincu. Et vous savez, cette discussion, elle pourrait être théorique. On pourrait très bien dire, oui, mais enfin, en France, on essaie. Simplement, regardons juste. On n'est pas plus bête que les autres, mais on n'est pas non plus plus intelligent. Regardons ce qu'ont fait les autres. Les Italiens, dont vous parliez. Les Allemands, dont vous parliez. Les Anglais, dont vous parlez. Ils ont tous fait à peu près ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire fluidifier le marché du travail et donner plus de stabilité à l'environnement des entreprises, en modifiant un petit peu moins la fiscalité, en modifiant un petit peu moins les normes. Et quand on fait ça, eh ben, ça n'est pas une surprise, on facilite l'activité des entreprises, on donne des envies d'investir, on donne des envies de créer, et on voit un chômage qui diminue. Et encore une fois, ça n'est pas une constatation théorique, ça n'est pas un credo, c'est simplement l'observation de ce qui se passe dans des pays comparables à la France, juste à côté de chez nous.
Alain Frey.
Une petite question, on sort des élections régionales, et Xavier Bertrand, nouveau président de la région Nord-Picardie, a laissé entendre qu'il était très demandeur de très importantes délégations de compétences en matière de formation et de politique de l'emploi, etc. Est-ce que ça vous paraît opportun ? Jusqu'où il faut aller ?
À l'inverse d'ailleurs, hein, je complète la question d'Alain, à l'inverse des présidents de région Wauquiez et Retailleau qui disent hors de question de participer à cette mascarade. Qui a raison ?
Je ne crois pas qu'ils s'opposent en vérité. Je pense qu'on donne le sentiment qu'ils s'opposent, mais en réalité ils ne parlent pas de la même chose. Xavier Bertrand dit... le système de formation d'apprentissage ne fonctionne plus véritablement bien au niveau national. On le voit. Derrière les grands discours de M. Hollande qui vous explique que l'apprentissage est la garantie d'eux, il y a un désastre national qui est la diminution année après année du nombre d'apprentis et la désaffection croissante de la société française pour ce qu'est la formation par apprentissage, alors même que chacun s'accorde à reconnaître que c'est probablement la meilleure façon de former. Donc on est dans une espèce de désastre et de schizophrénie française qui est terrible.
Bon, quand Xavier, Retailleau dit attendez, ma région ne financera pas des voies de garage, c'est clair, non ?
Xavier Bertrand fait ce constat. D'accord. Et dit, si ça marche pas au niveau national, probablement au niveau régional, je peux l'organiser, faire en sorte que ça marche mieux. D'accord. Et je crois qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Que disent Wauquiez et Bruno Retailleau de leur côté ? Ils disent qu'il n'est pas question que les régions qu'ils dirigent se prêtent à la mascarade organisée par le président de la République de dire on va mettre 500 000 personnes en formation, alors même, encore une fois, que tout ce que nous constatons aujourd'hui, c'est l'incapacité du pouvoir à organiser ce type de formation. Donc je ne crois pas qu'ils s'opposent entre eux. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Ok, l'autre grand sujet de l'actualité, c'est bien sûr encore et toujours le pataquès qui perdure sur la déchéance de nationalité, mesure proposée au lendemain des attentats du 13 novembre par le président Hollande et qui choque toute une partie de sa majorité. Le projet sera donc défendu le 5 février prochain à l'Assemblée par le Premier ministre Valls et non pas par la garde des Sceaux Christiane Taubira qui s'y oppose. Et vous-même, Édouard Philippe, vous êtes contre ? À l'inverse d'ailleurs d'Alain Juppé.
Alors,
expliquez-nous ça.
Oh, bah,
enfin, Alain Juppé, on ne sait pas trop. Hein.
C'est très simple. C'est très simple. Le président de la République a évoqué lors de son discours au Congrès une révision de la Constitution qui portait à l'origine sur deux points. La possibilité de déchoir de leur nationalité les binationaux, y compris ceux nés français, qu'il faudrait inscrire dans la Constitution. Et deuxième volet de cette réforme constitutionnelle, la constitutionnalisation de l'état d'urgence, c'est-à-dire le fait de faire passer dans la Constitution quelque chose qui est aujourd'hui contenu dans une loi qui a été votée en 1955.
Qu'est-ce qui vous déplaît ?
Deux aspects différents. Ouais. Sur le premier aspect, la déchéance de nationalité. Moi, je suis contre. J'ai toujours été contre les mesures relatives à la déchéance de nationalité. J'étais contre quand Nicolas Sarkozy l'évoquait en 2010. Je le disais à l'époque. Alors, simplement, il se trouve qu'à l'époque, j'étais...
Personne
ne m'invitait à le dire, mais je le pensais déjà, et il allait moins loin. Suis encore contre quand c'est François Hollande qui la propose, parce que je pense que c'est à la fois inutile, totalement inopérationnel, ça ne sert à rien dans la lutte contre le terrorisme, et que...
Ça tout le monde est d'accord, mais même si votre candidat...
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Tout le monde est d'accord pour dire que ça ne sert à rien, donc faisons-le.
Non, très, très clairement, tout le monde est d'accord pour dire que ça n'aura aucun impact dans la lutte contre le terrorisme, et qu'en revanche, c'est une mesure d'exemplarité dont les Français ont aujourd'hui besoin.
Mais ça n'est absolument pas une mesure d'exemplarité, c'est... Ça ne sert à rien, et si ça sert à quelque chose, c'est parce que ça aurait valeur de symbole, et je pense que ça a sa valeur de très mauvais symbole. Donc je n'y crois absolument pas, je suis opposé à ces mesures. Je comprends parfaitement qu'on puisse l'être. D'ailleurs, la position de mon parti politique, c'est d'être en faveur de cette partie de la réforme constitutionnelle. Ça a été voté par le bureau politique à 51 voix sur 58. Il se trouve que moi j'ai voté contre, je l'assume parfaitement, mais la position majoritaire dans mon parti, c'est d'ailleurs la position d'Alain Juppé, c'est de dire la déchéance de nationalité ne sert à rien, mais elle existe déjà dans la loi, c'est l'article 25 du Code civil. On peut donc la placer dans la Constitution en l'étendant un petit peu, non pas seulement aux binationaux devenus français, mais aux binationaux qui sont nés français. Je reconnais à ceux qui ont cette position une forme de cohérence, puisqu'ils étaient déjà pour. Et j'espère qu'ils me reconnaissent une forme de cohérence puisque j'étais déjà contre.
Alors j'ai une proposition à vous faire. Un gouvernement, comme chacun le sait, cherche sa martingale pour sortir de l'embarras dans lequel il s'est plongé d'ailleurs tout seul. Alors on parle désormais peut-être d'une possible déchéance de citoyenneté et non pas de nationalité. Est-ce que cela, ça vous irait mieux et vous pourriez voter le projet ?
Si vous voulez. Je voudrais pas que ma position sur la déchéance de nationalité soit prise comme l'expression d'une forme d'angélisme, voire de naïveté.
Non.
Moi, je suis partisan dans la lutte contre le terrorisme d'une extrême férocité. Et j'utilise pas du tout le terme par hasard. Je considère que quelqu'un qui a été convaincu de terrorisme, qui a été jugé, évidemment parfaitement en respectant toutes les garanties du justiciable dans le système français, quelqu'un qui a été condamné pour terrorisme doit être emprisonné, et emprisonné pour longtemps. Et quand je dis pour longtemps, c'est jusqu'au bout. La perpétuité réelle pour les terroristes ne me choque en aucune façon. Et je n'ai aucune espèce d'objection à ce qu'un terroriste croupisse en prison jusqu'à la fin de ses jours. Même s'il est malade. Je dis même s'il est malade parce qu'en France, il y a des terroristes qu'on a laissés sortir de prison parce qu'ils étaient malades.
D'accord.
Et encore une fois,
Non, personne ne mettait en doute votre fermeté.
Je n'ai aucune espèce d'hésitation là-dessus. Je dis simplement que la déchéance de nationalité, ça n'est pas la question.
D'accord.
Et que, à force de ne pas traiter les questions en France, on se retrouve dans des situations dramatiques. La maison est en train de brûler, et vous voyez des gens qui sont aux responsabilités dans l'État, qui sont en train de disserter sur la couleur de la porte du garage. C'est une honte. Il y a des choses, il y a des décisions à prendre dans ce pays si on veut garantir la sécurité des Français, et certainement pas se bouffer la rate sur des choses qui n'ont aucun rapport avec les sujets.
Et en deux mots, la déchéance de citoyenneté, ça ne change rien
La déchéance de citoyenneté, d'une certaine façon, c'est à mon sens plus acceptable. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui a été condamné, qui a purgé sa peine, on le déchoit de tous ses droits civiques. Bon, là aussi on est dans le symbole. Mais on peut faire ça. Moi, pour le coup, on aurait dit, on a sorti la peine principale d'une déchéance de citoyenneté, j'aurais eu aucun problème.
Très bien, c'est entendu. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve juste après les infos pour parler cette fois des primaires à droite.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Mardi politique, deuxième partie, toujours en compagnie du député Les Républicains, Édouard Philippe, l'un des principaux lieutenants d'Alain Juppé, pour vous interroger. Alain Auffray de Libération, Roselyne Fèvre de France 24. On le disait en titre, nous sommes à 10 mois désormais du scrutin des primaires à droite, qui seront les premières du genre, et bien dans votre famille politique, les candidats déclarés ou pas, Juppé, Sarkozy ou bien encore Fillon et Le Maire, pour ne citer qu'eux, accélèrent leur campagne en ce début d'année. Tous sont sur le terrain au plus près des Français pour décliner leur programme avec, dans ces compétitions, et bien c'est toujours votre candidat, Alain Juppé, qui fait figure de favori dans les sondages, alors que Nicolas Sarkozy dévisse dans les sondages. Il est à la peine. Est-ce que vous pensez, Édouard Philippe, que le match est d'ores et déjà plié?
Non, bien sûr que non. Non, non, bien sûr que non. Vous savez, moi j'ai 45 ans, ce qui m'autorise pas à faire état d'une très longue expérience politique. Enfin, je me suis présenté à quelques élections, j'en ai gagné certaines, puis j'en ai perdu d'autres. Il y a un truc que j'ai appris, c'est que d'abord, quand on sous-estime ses adversaires, on finit toujours par le payer. Et ensuite, que une élection, ça se gagne dans la durée, et ça se gagne le jour de l'élection. Donc, ne comptez pas sur moi ou sur nous pour penser que parce que quelques sondages concordants nous donneraient en avance 10 mois avant l'élection, elle serait déjà pliée. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé.
Comment vous expliquez en quelques mots le dévissage de Sarkozy? C'est une chute brutale auprès des sympathisants de droite.
C'est ce que semblent indiquer les sondages. J'ai pas à l'expliquer.
Vous avez bien une petite idée, en fait.
Non, mais j'ai pas à l'expliquer. Je pense que ce que j'entends beaucoup quand je suis au Havre, quand je discute avec des gens qui ont voté pour moi ou pas, d'ailleurs, quand je discute avec les Havrais, c'est plusieurs choses. C'est d'abord leur assez grand intérêt, ou plus exactement leur grande envie de participer à la primaire. Je suis assez frappé par ça. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Moi, j'ai envie de participer au choix du candidat. J'ai envie de déterminer celui qui portera les couleurs de la droite et du centre. Ou alors, j'ai envie de déterminer celui qui ne les portera pas. » Y a des motivations positives et des motivations négatives. Mais en tout cas, elle intrigue. Il y a une forme d'attente assez forte de la primaire. Ça, c'est la première chose qui me frappe. La deuxième chose qui me frappe, c'est effectivement la bonne image qu'a Alain Juppé, parce que on lui reconnaît, c'est pas forcément de l'amour, c'est même pas forcément de l'enthousiasme, même si parfois c'est de l'enthousiasme et de l'amour, mais c'est une forme, c'est une forme de reconnaissance, un, de son incroyable succès à Bordeaux. Et on lui reconnaît le fait qu'il a, en tant que maire de Bordeaux, magnifiquement réussi à transformer une ville et à la développer. Et ça, les propos sont assez unanimes. Et deuxièmement, le fait qu'il est dans le rassemblement, dans la modération et dans la hauteur de vue. Et que beaucoup de Français ont une forme d'attente, de modération, de rassemblement et de clarté. Et il est plutôt dans la cohérence et la clarté. Voilà.
Osez nous dire qu'il vous parle de Juppé, mais qu'il vous parle pas du tout de Sarko.
Oui, mais bien sûr que si. Il y a des gens qui me parlent de Sarko. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup, puis d'autres qui l'aiment moins. C'est la vie, ça.
Rien qui vous permettrait d'expliquer pourquoi il dévisse dans les sondages, donc.
Non, mais je pense que c'est plutôt à lui d'essayer de l'expliquer et puis à essayer peut-être de le corriger.
Alors, Fred.
Juste encore un mot là-dessus. C'est vrai que les écarts sont de plus en plus impressionnants entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. C'est quelquefois jusqu'à 20 points, voire plus. Est-ce qu'il nous arrive de penser que, compte tenu de cette situation, après tout, il serait pas plus raisonnable de dire que, voilà, que tout le monde se met derrière Alain Juppé et qu'on se dispense de cette primaire? Ou est-ce que vous avez envie qu'elle ait lieu, cette primaire, absolument?
Mais moi, j'ai toujours pensé, je suis pas, par nature, un enthousiaste de la primaire. Je crois pas que l'organisation de primaire relève d'une logique de vertu ou de modernité. Je pense que, en fait, c'est l'expression d'une nécessité beaucoup plus que celle d'une vertu ou de la modernité. Nous sommes dans un système où si un camp, la droite et le centre, arrive divisé à l'élection présidentielle au premier tour, le risque qu'il ne soit pas présent au deuxième est très élevé. Et là encore, c'est pas, je suis pas devin en disant ça. Je constate simplement ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé pour la gauche en 2002, lorsque la division à gauche a conduit à l'élimination de Lionel Jospin du deuxième tour. Et donc, On a bien compris que dans un dispositif où il y a trois camps qui peuvent être au deuxième tour de l'élection présidentielle, il faut que chaque camp s'ordonne au maximum avant le premier tour, sinon il risque de ne pas être qualifié pour le deuxième. C'est ça qui rend nécessaire les primaires, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. C'est parce qu'il n'y a pas de candidat légitime avec la force de l'évidence pour aller représenter la droite et le centre à ce stade qu'il faut organiser le truc le plus démocratique possible, le plus ouvert possible pour dire le bon candidat c'est celui-là, c'est le légitime. Et c'est lui qui va se présenter. Et c'est comme ça qu'on maximise la chance de gagner. C'est pour ça d'ailleurs que des gens qui étaient a priori très peu ouverts à la primaire, ils sont venus par nécessité. C'est vraiment la nécessité qui fait loi.
Donc vous voulez que le match ait lieu, vous souhaitez ?
Bien sûr, il faut qu'il ait lieu. Ça donne d'ailleurs une d'abord ça oblige à préciser sa pensée, à travailler, à convaincre son électorat très en amont. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt sain. Et puis ensuite, ça permet de trancher à l'intérieur de son propre camp, des lignes politiques. Donc, ça a au moins cette vertu-là.
Roselyne Feher. Benoît Apparu dit souvent, entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, la différence, c'est qu'il y a un homme d'État et il y a un homme de conquête. Donc, on a compris qui était l'homme d'État et qui était l'homme de conquête. Sur l'homme de conquête, justement, est-ce que Juppé est un homme de conquête ? Parce que pour l'instant, il a conquis quoi ? Il a conquis sur l'anti-sarkozisme. Qu'est-ce qu'il a conquis de lui-même, dans le fond ? Écoutez, de ses propositions
Je trouve la formule de Benoît Apparu belle, mais ce n'est pas la mienne et je n'ai pas forcément vocation à la commenter. Je me permets simplement d'indiquer qu'on peut être aussi un homme de conquête et un homme d'État, que ce n'est pas forcément incompatible, on peut d'ailleurs être ni l'un ni l'autre. Donc voilà, Alain Juppé, il n'est pas en train de dire voilà ce que j'ai de plus, il est en train d'exprimer le plus clairement possible ce qu'il veut faire pour en 60 mois, parce qu'un mandat présidentiel ça dure 60 mois, réparer le pays. Il constate que le pays va mal, et honnêtement, qui peut douter de ce constat, et il essaie de proposer sans fioriture, le plus précisément possible, de façon la plus cohérente possible, ce qu'il veut faire, les priorités qu'il se fixe pour réparer le pays. Voilà. Et en fait, ce que font les autres candidats, ils le regardent parce qu'il n'est pas aveugle, mais ce n'est pas son problème.
Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose. S'il est élu, face à Marine Le Pen, notamment, il dit qu'il dégagera des majorités d'idées, c'est-à-dire qu'il il recomposera la vie politique. Or, quand on vous écoute tout à l'heure, vous dites non au pacte, au plan de François Hollande, vous dénoncez le manichéisme politique, et pourtant, vous le pratiquez, ce manichéisme politique ?
Je ne sais pas si je pratique ce manichéisme politique. Vous voyez, par exemple, moi, je fais partie de ces quelques parlementaires de droite, il ne va pas y en avoir beaucoup, qui ont voté la loi NOTRe. Et je l'ai voté parce que j'ai toujours été partisan de la création de la Normandie, fusion haute et basse. Et ben, j'ai voté ce texte parce que je pensais que c'était un bon texte. Je n'ai pas voté contre la loi autorisant le mariage pour tous, parce que je considérais que c'était une avancée législative qui n'était pas mauvaise. Donc, quand je vois quelque chose avec lequel je suis d'accord à gauche, je le dis. Et d'ailleurs, si vous avez un peu de temps à perdre et que vous regardez mes déclarations à l'Assemblée nationale, vous pourrez constater que je me tiens à cette ligne, en tout cas que j'essaie de m'y tenir. Je n'ai jamais considéré que les socialistes, qui ont la majorité, ou les communistes, ou les verts, étaient des ennemis. Ce ne sont pas des ennemis. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais ce ne sont pas des ennemis. Et quand nous sommes d'accord, on a tout intérêt à le dire et à l'assumer. J'ai aucun problème là-dessus. Simplement, ce que je ne crois pas, et peut-être qu'un jour il y aura des recompositions politiques. Peut-être. Simplement, ça n'interviendra pas entre les deux tours d'une régionale et à l'occasion d'un discours du président de la République un peu mou.
Ce sera en 2017.
Le discours, pas le président de la République. Peut-être qu'au moment d'une élection présidentielle, il peut y avoir des recompositions politiques juste avant une législative. Peut-être. Je ne dis pas que ça arrivera. Mais je n'exclus pas que ça puisse arriver. Simplement, ça ne peut pas se faire par des combinaisons politiques entre personnes à un moment négocié sur un coin de table. Ça doit se faire dans la transparence, sur des programmes, sur des idées, sur des accords et sur un mandat. Voilà. Ça ne peut pas se faire en combinaison.
Alain Onfray.
Je voulais pointer un paradoxe apparent, en tout cas, qui est peut-être une fragilité d'Alain Juppé. Tout indique qu'il y a un besoin de renouveau dans la société française, parce qu'on voit toujours les mêmes têtes. Enfin, c'est quelque chose qu'on entend énormément. Et dans le même temps, Alain Juppé est haut dans les sondages, qui semble être une anomalie. C'est pas de nature à vous inquiéter un petit peu,
Oui, c'est une question qu'on me pose souvent, et je comprends d'ailleurs qu'on me la pose, parce que c'est vrai que quand on la pose comme ça, il y a quelque chose d'un paradoxe. Un fort désir de renouvellement, qui se traduit d'ailleurs par une assez grande popularité de figures nouvelles sur la scène politique, Et puis de l'autre côté, l'homme politique le plus populaire, celui qui est le plus haut dans les sondages, c'est Alain Juppé, dont je reconnais qu'on ne peut pas dire qu'il est un homme nouveau sur la scène politique française. Bon, je crois qu'en fait le paradoxe est plus apparent et moins réel que ce que vous dites. Pourquoi ? Les Français vivent dans une situation d'insatisfaction à l'égard de leur classe politique. Ils considèrent qu'elle n'est pas toujours à la hauteur, qu'elle prend trop souvent des postures, qu'elle tombe parfois dans le jeu manichéen que vous dénonciez. Et il y a clairement une espèce de réticence et d'insatisfaction. Comment est-ce qu'on répond à cette insatisfaction quand on est l'électeur français ? Soit en renversant la table et en ayant donc envie de générations nouvelles, de visages nouveaux. Ça explique le bénéfice que peuvent retirer des jeunes élus, et j'en ai moi-même probablement profité au moment des municipales, peut-être au moment des législatives. Ou alors, en essayant d'aller chercher ceux qui proposent le plus de cohérence et de clarté dans une classe politique à laquelle on reproche cette absence de cohérence et de clarté. Il se trouve qu'Alain Juppé, il est plutôt sur ce créneau-là, de la cohérence et de la clarté. Et pas de l'esbrouf, pas de la posture, mais plutôt du discours raisonnable et documenté. Et je pense qu'en réalité, ces deux choses-là sont les deux faces de la même pièce.
Donc il peut incarner cette figure de renouvellement.
Ben, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer.
Ouais, bon. Fort bien. Un mot sur Nicolas Sarkozy, lui qui prépare sa reconquête, hein, à nouveau en contre d'Alain Juppé, avec donc une immersion désormais sur le terrain, puis surtout un livre dont on parle beaucoup, en tout cas qui sera publié que lundi, dans lequel il se promet de revisiter son quinquennat, un mea culpa quelque peu mitigé. Il veut revenir dire sa vérité sur ses erreurs, mais également sur ses réussites. Est-ce que ce début d'inventaire, est-ce que cet inventaire, on verra jusqu'où il va, est-ce qu'il était nécessaire ? Est-ce que vous applaudissez le fait que l'ancien président fasse le point les succès et ce qui a manqué à son quinquennat ? Vous l'avez réclamé à une époque. Hein.
Je me vois mal commenter un livre que je n'ai pas lu.
Non, mais l'idée d'inventaire, parce que ça nous non.
Est-ce que ça peut inverser la tendance ?
Mais attendez, l'idée
de l'anti-sarkozisme. Ouais,
l'idée qu'un, d'inventaire. Non, mais l'idée qu'un responsable, quel qu'il soit, politique, évidemment, mais aussi n'importe quel homme, n'importe quelle femme qui exerce des responsabilités, s'impose un exercice de lucidité sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, sur pourquoi est-ce qu'en 2007 il a gagné s'agissant de Nicolas Sarkozy, pourquoi en 2012 il a perdu, sur ce qui aurait pu être fait autrement. C'est pas une question politique, c'est une question humaine. On est tous tenus à ça. Vous n'auriez pas beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui ne se retournerait jamais pour voir ce qu'il a réussi et ce qu'il n'a pas réussi. C'est un principe d'humanité, d'apprendre de ses échecs. Donc voilà, moi, le fait très bien,
quand,
il a raison.
Quand toute une partie de l'opposition réclamait un droit, un devoir d'inventaire, ils ne pensaient pas nécessairement qu'à cette humanité ni à la lucidité que devait avoir Sarkozy.
Mais il y a des
réclamait qu'on retire les enseignements de ce qui avait marché ou pas.
Il n'y a pas de question théorique là-dessus. Il y a des aspects positifs dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il y a des aspects négatifs.
Lesquels alors ? Justement, on va le faire avec vous, puis on verra si ça figure dans le livre lundi.
Bah, écoutez,
qu'est-ce que vous retenez de bon et
moi,
moins bon ?
Moi, dans les aspects positifs, je l'ai toujours dit, je considère qu'en 2008, lorsque, pas simplement la France, mais la totalité du monde occidental se trouve confrontée à une crise financière redoutable, la réaction du président de la République et des autorités françaises est une bonne réaction. Et que la crise terrible qui s'abat, et dont on ne peut pas dire qu'elle est causée par Nicolas Sarkozy ou par le gouvernement français, eh ben, les réponses proposées et mises en œuvre par le gouvernement français et négociées au niveau européen sont plutôt des bonnes réponses. C'est évidemment au crédit de Nicolas Sarkozy et au crédit de la France, du reste.
Ensuite, ça, c'est dans le bon.
Oui, c'est dans le bon. Deuxième sujet que je trouve pas mal, tout ce qui est relatif au Grand Paris. L'espèce de d'ébullition intellectuelle voulue par le président de la République pour essayer non pas d'incarner son quinquennat dans une grande construction architecturale, mais d'essayer de créer autour de Paris, autour de la capitale de France, un développement économique, une immense zone d'aménagement qui permettrait d'être à la hauteur des très grandes métropoles mondiales. Mais franchement, c'est plutôt une très bonne chose. Pour le maire du Havre que je suis, c'est même une nécessité, parce que l'accès à la mer de Paris, ça se passe passe par le Havre. Et pour nous, c'est un projet qui nous a plu immédiatement et dans lequel on s'est beaucoup engagé. Et je pense que c'était un remarquable projet. Donc il y a des choses positives. Et puis il y a des choses qui sont évidemment négatives. Moi, je l'ai dit à l'époque, je le redis aujourd'hui, je n'ai pas du tout aimé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Je n'ai pas aimé les thèmes sur lesquels elle était fondée. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Des gens qui sont beaucoup plus proches que moi de Nicolas Sarkozy, qui étaient ses ministres, s'en sont également émus. On se souvient des propos de Nathalie Kouskoumorizet sur cette campagne, sur la campagne de Maurras. Bon, donc, il y a des choses que j'ai aimées, d'autres que j'ai moins aimées. Je n'ai pas aimé le discours de Grenoble. Je n'ai pas aimé la campagne. Et je ne suis pas sûr que, par exemple, sur la diminution des effectifs en matière de police, de douane, de gendarmerie, les décisions qui ont été prises et qui ont été prises et soutenues par la majorité. Je n'étais pas député à l'époque, mais étaient bonnes. Et on a le droit de le dire. C'est pas une attaque de le dire. Il faut au contraire le constater. Pour une raison très simple. C'est que si un jour, on revient aux affaires, si un jour les Français nous font confiance, on ne pourra pas se borner à dire « vous nous avez fait confiance ». Comme vous le savez, on est toujours capable de tout réussir. Il faudra aussi s'inspirer et voir ce qui n'a pas été réussi pour réussir mieux la prochaine fois.
Alors, Lefebvre, il y a quelques instants, on parlait de ce qu'avait fait la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et je voudrais rebondir sur la question qu'avait posée tout à l'heure Alain. C'est que c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, par exemple, quand Miliband perd, quand Tony Blair perd, quand en Espagne ils perdent, c'est ciao les filles, on ne les revoit pas, les hommes politiques qui perdent.
C'est vrai.
En France, on les a depuis 30 ans, c'est toujours les mêmes.
Bon, d'abord,
quand on perd, on revient.
D'abord, il y en a qui ne sont pas revenus. Généralisez pas. Attendez. Lionel Jospin a dit qu'il arrêtait. Il a arrêté.
Un peu fatigué.
Lionel Jospin a dit qu'il arrêtait.
Oui. Pardon. Sur une blessure narcissique.
Peut-être. Ok, très bien. Je me faites pas non plus penser que les Anglais ils terminent pas en se disant j'aurais bien aimé continuer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a en France des gens qui perdent et qui ne reviennent pas, qui décident d'arrêter. Bon, voilà, c'est comme ça.
Donc Fillon, vous le croyez quand il dit ça? S'il perd au primaire.
Ensuite, vous avez en tête, en me posant cette question, et en tout cas j'ai en tête quand vous me la posez, la déclaration de Nicolas Sarkozy, qui, au moment de la campagne de 2012, explique, face caméra, deux fois, trois fois, que s'il perd, il arrête la vie politique. Je pense qu'au moment où il le dit, il est sincère. Et je constate que les circonstances ont dû changer, puisqu'il est revenu.
Mais ça, c'est comme les grandes divas, en fait, qui finissent toujours par revenir après avoir fait...
Alain Juppé, il part au Québec, c'est pas humain, il revient.
Alain Juppé, il a jamais dit qu'il arrêtait. Il a tiré les conséquences d'une décision de justice, il a démissionné de la mairie de Bordeaux, il a démissionné de l'Assemblée nationale, il est parti, il a enseigné pendant un an, il a beaucoup appris, ça, je peux vous le dire.
Oui.
Je n'exclus pas d'ailleurs que cette interruption forcée lui ait fait beaucoup de bien. Et puis ensuite, il est revenu, s'est présenté au suffrage des Bordelais et il a été élu maire de Bordeaux, réélu maire de Bordeaux, réélu maire de Bordeaux. Et voilà.
Ce n'était qu'une tentation de Venise. Alain Onfray.
La primaire, qui est maintenant en phase de préparation assez avancée, ce sera donc la confrontation de différents candidats, des personnalités et des projets. Or, il se trouve qu'en ce moment même, au moment où on parle, le bureau politique de votre parti est en train de préparer un conseil national qui est censé lui aussi soumettre au vote, un conseil national donc préparé par Éric Woerth, enfin que des proches de Nicolas Sarkozy, qui est censé soumettre au vote de ce conseil national des propositions programmatiques, si j'ai bien compris. Et on voit bien que la volonté de Nicolas Sarkozy, je crois, que c'est ce qui se confirmera, est d'aller le plus loin possible pour montrer que c'est là que ça se passe. Donc, est-ce qu'il n'y a pas toujours comme ça une tension qui n'est toujours pas résolue? On a l'impression que la logique de la primaire n'est pas vraiment acceptée.
Je suis surpris, cher Alain Onfray, vous qui êtes un fin connaisseur à la fois de la vie politique française et de l'histoire politique française, vous me posiez cette question. Parce que s'il y a bien quelque chose que nous savons tous, et depuis longtemps, c'est que l'élection présidentielle en France, ça n'est pas le choix par la population française d'un parti politique, mais c'est le choix d'un candidat. Et que jamais, 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 le candidat à l'élection présidentielle ne s'est cru tenu par le programme de son parti. Et je ne vois pas pourquoi cette année ce serait plus le cas que depuis toutes les autres fois. Et il est évident qu'il est utile que le parti Les Républicains ou le parti socialiste ou n'importe quel autre parti travaille. D'ailleurs, on le lui reprocherait si c'était pas le cas. Donc il travaille, il formule des positions politiques avec des majorités, avec des minorités, et c'est très sain. Loin de moi l'idée de le critiquer, au contraire, c'est indispensable. Mais jamais aucun candidat à l'élection présidentielle n'expliquera que il est tenu par le programme de son parti politique. Et je vous en donne un exemple, parce que je trouve qu'il est assez savoureux. C'est celui de Nicolas Sarkozy. Ni en 2007, ni en 2012, il ne s'est cru tenu une seconde par ce que formulait son parti politique en termes de programme. Et ça n'a choqué personne. En tout cas, certainement pas moi.
Donc c'est indispensable, mais ça sert à rien.
Non, c'est indispensable parce que c'est dans la nature du parti politique de travailler et de formuler des propositions politiques. Ce sera probablement entendu et écouté par l'ensemble des candidats à la primaire et ce sera pris en compte, mais ça ne peut lier en rien le candidat qui résultera de la primaire.
Voilà, on ouvre la dernière séquence de mardi politique, comme on dit, question courte, réponse aussi courte, Édouard Philippe. Je commence avec Pamela Anderson à l'Assemblée nationale pour la lutte contre le gavage des oies. On est sur des sujets sérieux. Vous y êtes allé. Est-ce que cette visite était la bienvenue? Elle a été beaucoup contestée.
Je suis allé à l'Assemblée nationale et j'ai compris que je n'ai pas vu Pamela Anderson, mais j'ai compris que sa venue suscitait beaucoup d'émoi. Voilà. J'ai pas tellement de position sur le sujet, si vous me passez l'expression. En revanche, je peux vous dire que j'aime bien le foie gras et que je vais continuer à en manger.
Bah, plus que Pamela Anderson.
Votre plus grosse engueulade avec Nicolas Sarkozy?
Elle était assez volumineuse, oui, c'est le cas de le dire.
Pourquoi?
Je crois qu'il avait considéré que j'avais pas fait exactement ce qu'il voulait. Et c'était normal, parce qu'en fait, ce qu'il voulait, c'était pas exactement ce que voulait mon chef. Et qu'à l'époque, je plutôt pour doctrine, d'ailleurs c'est toujours la mienne,
c'était pas parce que son nom était pas assez gros sur un carton.
On a eu des engueulades plus grosses que ça. Mais vous savez, il y a un truc que je reconnais. On a eu des engueulades assez féroces avec Nicolas Sarkozy. Mais c'est pas quelqu'un qui est dans le ressentiment. Donc ça peut être assez sonore, ça peut être assez direct. Il se trouve qu'il est assez direct, mais il se trouve que moi aussi. Donc c'est vrai que ça. Voilà. Mais ensuite, une fois que c'est passé, c'est passé.
Alain.
Alors, je crois savoir que vous êtes boxeur amateur. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette activité et le fait que vous êtes un homme politique?
Non, j'ai commencé la politique bien avant la boxe. Il faut bien reconnaître que c'est facile de tirer des parallèles entre la boxe et la politique. On esquive, on riposte, on attaque. Parfois, on passe en direct, parfois, on passe en uppercut. Il faut à la fois gérer les temps forts et gérer les temps faibles. C'est un combat. Il y a des règles. Parfois il faut les contourner. Cela dit, si on veut tirer le parallèle jusqu'au bout, dans la boxe, il y a toujours du respect entre les boxeurs. Il y a du théâtre, mais il y a toujours du respect. Et la boxe, c'est aussi l'art de la maîtrise. C'est conjuguer la vitesse, la technique, la force et la maîtrise. Et je pense que c'est au fond un bon parallèle, parce que la politique, si on pense que c'est un sport de brute, on se trompe. Il y a beaucoup de maîtrise. Et beaucoup de maîtrise.
Si ce n'est pas Juppé qui emporte la primaire, vous soutiendrez sans état d'âme le gagnant, quel qu'il soit?
Bien entendu.
Sarkozy, Juppé, vous avez une préférence?
Non, mais vous savez, moi, j'ai toujours été d'une très grande loyauté vis-à-vis du parti politique dont je suis membre. Pour une raison très simple, c'est que si je n'avais pas envie d'être loyal vis-à-vis du parti politique dont je suis membre, j'en partirais. Tant que je suis membre de ce parti politique, je suis loyal vis-à-vis de ses institutions et vis-à-vis de celui qui le préside. Et si, demain, c'est François Fillon ou Nicolas Sarkozy ou Bruno Le Maire qui gagnent la primaire, je serai un soutien loyal. Puis après, je verrai ce qu'ils disent et on verra si je suis d'accord.
Le mot de la fin de cette émission Mardi Politique réalisée par Mathias Golgiani. Merci Édouard Philippe d'être passé par RFI. Rendez-vous à tous la semaine prochaine.